C'est bon? Allez, on va y aller comme ça. Donc, disais-je, je me suis donc proposé de trouver une suite à ce que j'avais dit il y a 15 jours. Alors, ça n'allait pas tout seul, parce que j'avais eu le sentiment, non pas de faire le tour de la question il y a 15 jours, mais on ne fait jamais le tour de la question quand il s'agit des textes bibliques, mais enfin, d'avoir en tout cas terminé mon propos. Et donc ce propos, pour ceux qui n'étaient pas là, évoquait l'épisode bien connu de la Genèse où Caïn et Abel offrent tous les deux un sacrifice à Dieu, et je m'étais penché sur, on va dire, l'état d'esprit de Caïn et Abel pour essayer de comprendre pourquoi le sacrifice de l'un des deux avait été approuvé par Dieu et pas l'autre, et puis surtout quelles leçons on pouvait en tirer. Alors, très brièvement, parce que je ne vais pas refaire ce que j'ai fait la dernière fois, mais bon, juste pour ceux qui n'étaient pas là, ce qu'on avait constaté ensemble, c'est que d'abord, il y en a un des deux frères qui attend une contrepartie de son offrande, puisque c'est évidemment Caïn, puisque quand la contrepartie ne vient pas, ça le met en colère, et en colère très, très violemment. Donc ça veut dire que dans sa tête, avant que les événements ne se produisent, eh ben, il est arrivé en disant « j'offre quelque chose à Dieu, mais je veux quelque chose en retour », ce qui n'était pas le cas d'Abel. Et puis, ce qu'on a aussi examiné, c'est le fait que Caïn, il est, puisque Dieu va vers lui et lui parle, et Caïn, malheureusement pour lui, est dans cette incapacité de nouer avec Dieu ce dialogue qui pourtant lui est offert. Et l'attitude de Dieu, c'est pas de lui dire « t'es un tordu et t'as de mauvaises intentions », c'est de lui dire « tu peux sortir de cette impasse dans laquelle t'es enfermé. Tu peux, avec la relation que tu as avec moi, tu peux vaincre le péché », pour reprendre le terme. Et Caïn va s'enfermer dans un refus de cette communion plus intense que Dieu lui propose, et évidemment tout seul, face au mal, il ne va pas sortir vainqueur de ça. Et puis, le troisième élément qu'on a vu, c'est que Caïn, il a vis-à-vis de son frère une attitude un peu, entre guillemets, tordue, c'est-à-dire que il est capable de dire à Dieu, moi je suis pas le gardien de mon frère, je ne suis pas là pour veiller sur lui, mais quand même, pour faire la comparaison et pour s'apercevoir que Dieu n'avait pas jeté le même regard sur son offrande que sur celle de son frère, bah, il a quand même bien fallu qu'il jette un regard de côté et qu'il voit quelle avait été l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Abel. Et ce qui me faisait dire en un résumé très saisissant, Caïn n'est pas capable de veiller sur son frère, mais il est capable de le surveiller. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait examiné il y a 15 jours. Et donc, quand je me suis dit, ce serait peut-être bien que mon propos d'aujourd'hui ait un lien quelconque avec ce que j'ai raconté la dernière fois, je me suis souvenu que quand Dieu donne des leçons, et celle-là en est une, quand Dieu donne des leçons, en général, pas systématiquement, mais en général, il les donne à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau individuel et au niveau collectif. Et souvent, ce que Dieu a à nous apprendre, il a à nous l'apprendre pour nous personnellement, individuellement, et puis pour nous, au sens pluriel du terme, en tant que communauté, en tant que, disons-le, Église, en tant que son peuple. Et donc, je me suis dit que de la même manière que s'il y avait eu à l'époque une caméra sur place pour filmer Caïn et Abel en train de faire leur offrande, et que du coup la caméra n'aurait rien pu déceler de la différence qu'il y avait entre les deux, parce qu'encore une fois, en apparence, les choses étaient rigoureusement semblables. Les deux frères apportent à Dieu une offrande, et il fallait être Dieu, donc, puisqu'il fallait être dans leur tête et dans leur cœur, surtout, pour savoir que la différence entre les deux frères était radicale. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque chose où on passerait du niveau individuel au niveau collectif, c'est-à-dire qu'une collectivité ferait la même chose avec, à l'intérieur d'elle-même, si je puis dire, un état d'esprit radicalement différent, voire opposé. Et évidemment, quand on pose la question comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin la réponse. Et donc la réponse, vous vous en doutez, vous avez peut-être déjà deviné, la réponse c'est deux fois de suite dans la Bible, un peuple qui fixe son regard sur un animal en métal. Et quand je vous dis ça comme ça, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, c'est l'histoire d'eux », parce qu'il y a deux histoires. Il y a deux cas relatés dans la Bible où le peuple, le même peuple du coup, Israël, fixe son regard sur un animal en métal. Alors, le premier, il est dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, les versets 1 à 6, que je vais lire. Donc, Moïse, c'est donc de Moïse qu'il s'agit, Moïse est parti sur la montagne, d'abord avec d'autres, et puis finalement tout seul, pour l'étape ultime, à la rencontre de Dieu, qui va lui donner la loi. Et pendant ce temps-là, le peuple, en bas de la montagne, attend. J'allais dire « attend patiemment », mais non, justement. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête. » Alors, des dieux ou un dieu, c'est compliqué à traduire. C'est un pluriel en hébreu, mais quand on parle de Dieu, les premiers mots de la Bible, au commencement Dieu créa, c'est aussi un pluriel. Donc on ne sait pas si on doit traduire s'il voulait un dieu ou des dieux, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau, on peut traduire comme ça, de veau, de toute façon c'est connu comme l'épisode du veau d'or, donc on va garder le mot veau. Ils dirent alors, voici tes dieux Israël, ou ton dieu, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue, puis Aaron proclama ceci, « Demain, fête pour le Seigneur. » J'attire là votre attention sur le fait que le mot ici, c'est plus le nom générique de Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu ou un faux, c'est le nom propre de Dieu. Donc, « Demain, fête pour le Seigneur, Dieu. » Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, il se leva pour se divertir. Fin du premier épisode. Épisode 2, dans les Nombres, chapitre 21, verset 4. Donc là, c'est plus tard, parce que Aaron est mort. Et on est dans l'entrée, là, dans le pays promis. Ils partirent de la montagne de Hor, par la route de la mer des Joncs, en contournant le pays d'Édom, mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ?» Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Pain de misère, c'est la manne que Dieu donne tous les jours. Connaissez-vous. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alors serpents brûlants, ils sont appelés comme ça en hébreu, c'est-à-dire des serpents dont la morsure provoque une sensation de brûlure. Contre le peuple des serpents brûlants qui les mordirent. Et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain ou de bronze, comme vous voulez, et le fixa à une hampe, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain, et il avait la vie sauve. Là, on a de nouveau la comparaison de deux situations où, avec une caméra, on ne pourrait pas faire la différence. On voit à chaque fois un peuple dont tous les regards convergent vers une statue d'animal en métal. Et pourtant, comme dans le cas de Caïn et Abel, quand on va un peu au-delà de la surface des choses, eh ben on s'aperçoit que l'état d'esprit est complètement différent. Et j'ai la prétention de penser que ça peut nous servir de leçon. Alors, d'abord l'état d'esprit, commençons chronologiquement, l'état d'esprit du peuple dans l'épisode du veau d'or. Il y a là encore une apparence et une réalité, ou plus exactement, il y a un prétexte et un état d'esprit plus profond. Le prétexte, on lit dès la première phrase. Le peuple considéra que Moïse tardait à revenir. On a là affaire à un peuple qui se sent capable de décider si Dieu est à l'heure ou en retard. C'est-à-dire que il s'est fait une idée, le peuple, du temps que ça devait prendre, de donner la loi à Moïse, enfin de monter sur la montagne, de recevoir la loi des mains de Dieu et de redescendre. Et puis bon, là, ça commence à durer un peu. Et donc du coup, puisqu'il ne veut pas redescendre, l'autre là-haut, on va faire sans. Donc ça, c'est l'apparence. Alors, effectivement, on peut déjà tirer des leçons de ça. Parce que qui sommes-nous pour décider, Paul parlait du temps tout à l'heure, et c'est tout à fait à propos, puisque on a tous racheté une heure ce matin. Racheter le temps, mais le temps, et il faudrait des heures pour, et je me régalerais pour parler des livres philosophiques de la Bible dans lesquels la question du temps est traitée, et notamment du livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette. Le temps, il appartient à celui qui est au-dessus du temps, et celui qui est souverain sur le temps, pas à ceux qui sont enfermés dedans. Et donc, décider que Dieu pourrait se dépêcher un peu pour donner sa loi, c'est gonflé. Mais et si on prend l'énumération de ce qu'on appelle habituellement les fruits de l'esprit dans le livre des Galates au chapitre 5 et au verset 22, vous allez voir qu'en bonne place, il y a la patience. Parce que la patience, c'est aussi ce que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner. Et effectivement, dans notre marche avec Dieu, que ce soit d'ailleurs individuellement ou collectivement, il m'arrive, je ne sais pas pour vous, de faire preuve d'impatience. En disant quand même, ça je l'ai demandé à Dieu, ça commence à faire longuet maintenant. Pour que ma prière monte jusqu'à lui, qu'il l'entende, qu'il fasse ce qu'il faut et que ça redescende, normalement il ne faut pas tout ce temps-là. Donc on va faire sans. Parce que, au-delà du prétexte du temps trop long que Moïse met pour redescendre, il y a l'idée que ça tombe bien, en quelque sorte, il ne redescend pas. Et donc, on va pouvoir faire sans lui. Parce que, Moïse, il n'a pas caché au peuple ce qu'il allait faire. Le peuple sait. Exode, chapitre 24, verset 3. Moïse vint, donc ça c'est avant qu'il monte. Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, il se leva de bon matin, bâtit un autel au bas de la montagne avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël, puis il envoya les jeunes gens d'Israël, ceux-ci offrirent des holocaustes, sacrifièrent des taureaux au Seigneur, comme des sacrifices de paix. Moïse prit la moitié du sang, mit dans les coupes, etc. Avec le reste du sang, il aspergea l'autel, il prit le livre de l'Alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit, bis repetita, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Les choses sont claires. Je vais chercher la loi de Dieu, ne bougez pas d'ici, je reviens. Promis. On attend, promis, ce qui va redescendre, on le met en pratique. Nickel. Bon, puis on attend. Puis on attend, puis on se dit, bon, qu'est-ce qui va redescendre de là-haut? Il va redescendre deux choses. Il va redescendre des règles de conduite, c'est-à-dire une loi que du coup on va nous imposer, donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et puis surtout, il va redescendre une direction, c'est-à-dire il va redescendre un type qui, en plus de nous dire « à partir de maintenant, voilà les règles » et c'est évidemment pas négociable, « à partir de maintenant, voilà les règles » et « voilà dans quelle direction on va ». Bon, ben, on est sorti d'Égypte là, ça y est. La menace, l'armée d'Égypte engloutie dans la mer, ben, très bien. Après tout, ça serait pas plus sympa de se faire nos règles nous-mêmes? Et après tout, ce serait pas plus sympa de décider dans quelle direction on va? Après tout, en tant qu'Église, ce serait pas plus facile de faire notre petite sauce dans notre coin et de se fixer nous-mêmes nos objectifs? Parce que, ce que le peuple va faire, et c'est ça la vraie raison, le retard, encore une fois, n'est qu'un prétexte, ça les arrange bien. Ce que le peuple va faire, le texte nous le dit, avec effectivement une formule assez elliptique qui permet pas d'en savoir beaucoup plus, mais qui le permet de deviner. Déjà, il nous faut, alors ils disent à Aaron, allez debout. Debout, et il nous faut un Dieu qui marche à notre tête. C'est-à-dire un Dieu derrière lequel on va se mettre en mouvement. Sauf que, bien sûr, vu la personnalité du Dieu en question, c'est-à-dire un veau en or, c'est pas le veau qui va dire « on va par là ». C'est le peuple qui va décider. Parce que le veau, c'est pas lui qui nous tire, c'est nous qui le poussons. Et donc c'est plus facile de le pousser dans la direction qu'on veut. Alors que Dieu, c'est moins facile de le pousser là où on veut aller. Et en fait, ce qui se passe dans la tête du peuple, là, c'est ça, c'est que en fait, à bon compte, on se débarrasse de Dieu comme souverain. C'est-à-dire, on va se passer des règles, parce que, ou on va se les faire nous-mêmes, ça sera light. La preuve, le peuple s'assit pour manger et boire et se leva pour se divertir. Et là, le mot qu'on traduit divertir, j'entre pas dans les détails, mais ça peut pas dire jouer à la pétanque. Hein. C'est la fête. Hein. Fait tourner les serviettes, voilà. Donc je vous passe les détails. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de règles. Puis c'est tellement plus sympa de s'éclater. Donc, on se débarrasse de Dieu qui, effectivement, nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc, quand on va faire le veau d'or, on ne va pas oublier de dire « Voilà, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte » ou « Celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Parce que maintenant, on lui a clos le bec. C'est évidemment pas le veau qui va nous fixer des règles, qui va nous dire comment on doit se comporter. Donc maintenant, on est autonome. Et puis c'est pas le veau non plus qui va nous dire dans quelle direction on doit aller. Donc maintenant, on est libre de nos mouvements. Dans l'autre cas, vous avez déjà compris que l'état d'esprit du peuple, il est complètement différent. Là, il est évidemment pas question de se passer de Dieu dans l'épisode du serpent de bronze ou d'airain, comme vous voudrez. Parce que là, le peuple, il est dans l'état d'esprit, j'allais dire, où on doit être, nous, collectivement, tout le temps, c'est « on va crever ». On va crever, pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'on porte le poids d'une culpabilité qui entraîne notre mort. Les serpents, ils sont pas venus tout seuls, ils sont venus comme punition, parce que le peuple s'est égaré. Et donc, notre condition, à la fois en tant qu'individu et en tant que collectivité, c'est de mourir. Et donc, là, Dieu, on ne peut pas s'en passer, on a besoin de lui pour nous sauver la vie. On n'est plus du tout dans « on va y arriver sans lui maintenant qu'on est sorti d'Égypte ». Et recevoir sa volonté sous forme de loi et recevoir la direction à prendre sous forme d'un Moïse qui va nous dire « il m'a dit que c'était par là », ça c'est plutôt gonflant qu'autre chose. Non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, on est dans l'état d'esprit, j'allais dire, que Dieu attend. C'est « s'il ne nous sauve pas, on va mourir, tous ». On va tous y passer. Donc là, pas question de se passer de lui. Il nous a tiré d'affaire une fois, bon bah maintenant, même en tant qu'église, hein, on va se débrouiller, on va y arriver. On va se faire des petits trucs, on va s'écrire des constitutions, et puis voilà. Confession de foi, ça s'appelle. Et puis avec ça, on va y arriver. Puis on va tous les ans se réunir en assemblée générale, puis on va dire, voilà, maintenant la ligne du parti, c'est par là. Non. Le vrai état d'esprit que Dieu attend, c'est « on va mourir s'il ne nous sauve pas la vie ». Et je ne vous rappellerai pas, parce que tout le monde, depuis que j'ai commencé à parler, a cette phrase présente à l'esprit, la phrase de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, que je vais lire d'ailleurs. Parce que figurez-vous qu'avant Jean 3,16, il y a quelque chose. Pas l'habitude, mais... Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3, 14, 15. Comme Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit et en lui la vie éternelle. Vous avez remarqué dans le texte du serpent de bronze ou d'airain, vous avez peut-être remarqué que Dieu fait une réponse décalée au peuple. On va le reprendre parce que ça c'est important. Donc on reprend dans les nombres, nombre 21, il y a des détails à côté desquels il ne faut surtout pas passer. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant, intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe, quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » La prière du peuple, c'est pas « Fais-nous un truc qu'on va percher », ça, ça leur est même pas venu à l'idée. La prière, elle est humaine et de bon sens. Il y a des serpents dont la morsure est mortelle, qui se sont attaqués à nous, Seigneur, éloigne les serpents. Sauf que c'est Dieu qui les a envoyés, les serpents. Éloigne les serpents. Et Dieu, cette prière-là, il ne l'exauce pas. Mais, à la place, il dit au peuple, les serpents, c'est la contrepartie, si je puis dire, automatique de votre rébellion vis-à-vis de moi. Donc, les serpents, ils sont là, ils vont y rester. Mais par contre, je ne fais pas comme si vous ne vous étiez pas rebellé, je ne fais pas comme si vous n'aviez pas commis le mal, parce que le mal a forcément une contrepartie. Par contre, moi, je vous fournis les moyens de vous sauver du mal. Le moyen, d'ailleurs, parce qu'il y en a qu'un. Et de la même manière, la prière que l'humanité entière fait monter vers Dieu, si des fois il y en a un, c'est jamais, ça ne peut pas faire de mal, c'est « sauve-nous de la mort, épargne-nous la maladie, fais en sorte que tous les malheurs qui s'abattent sur la terre, les guerres, les famines, les machins... » Il y a beaucoup d'enfants qui prient pour que tout ça disparaisse en un claquement de doigts. Même des adultes aussi. Fais en sorte que la mort, que la maladie, que le mal, que la haine, tout ça, si ça pouvait passer à la trappe. Ça, c'est une prière humaine, compréhensible. Et Dieu répond avec le même décalage, en disant, mais ça, c'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est vous. La rébellion, elle a un prix. Ce que la Bible exprime en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Le prix du péché, c'est la mort. Et ça, c'est pas négociable. En revanche, donc ça, ne comptez pas que le Dieu dans l'existence duquel vous croyez, éventuellement, peut-être qu'il y en a un, peut-être que le ciel n'est pas complètement vide. Et donc, si c'est le cas, bah, ce serait bien que tu fasses un peu le ménage sur cette planète où on passe son temps à s'entretuer et à mourir. La réponse, ça peut pas être « Ok, je transforme votre planète en paradis. Ok, vous avez l'éternité contre une humanité rebellée. » Ça ne peut pas être la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est pas « Je vais éloigner les serpents ». Les serpents, ils sont toujours là. Dieu laisse les serpents au milieu du peuple. Mais Dieu dit, voilà, l'image même de ce qui vous fait mourir, j'en fais l'instrument de votre salut. Et vous allez, non pas avoir une réponse qui vous permettrait, parce que Israël, c'est Israël, mais nous, c'est nous, donc pareil, même combat. Et l'humanité, c'est l'humanité. C'est-à-dire que si demain Dieu faisait ça, après-demain, Dieu, on l'a oublié. Imaginez qu'ils répondent au peuple en disant, ok, vous voulez plus des serpents? Allez. Et puis les serpents, ils s'en vont comme ça. Ils se barrent dans le désert. 3 jours après, on a oublié que c'est Dieu. Puisqu'on a déjà oublié que c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et qu'on se dit, bah, ça ira bien comme ça. On peut se débrouiller sans lui. Eh bah, 3 jours après le coup des serpents, s'il les éloigne, on peut se débrouiller sans lui. C'est pour ça qu'il fait une réponse décalée. Parce que les serpents, ils sont toujours là. La mort, elle est toujours là. Simplement, juste pour que vous pensiez que c'est moi qui vous offre la vie, je vous donne le moyen absurde, hein, d'un point de vue humain. Parce que bon, celui qui va regarder le serpent, il va être guéri. Oui. Tu crois que un regard contre du venin mortel, ça peut... Ouais, tu nous prends pour des billes, là. Ça s'appelle la foi, ça. Et vous croyez qu'en... Moi, j'entends ça tout le temps. Tu crois qu'en mettant sa confiance dans un type qui est mort il y a 2000 ans, là, sur une croix, et que, vaguement, quelques types un peu allumés ont cru revoir quelques jours après, tu crois que ça va changer ta vie, ça? C'est... Oui, ça s'appelle la foi. Et la foi, c'est une folie. Et Dieu répond à la prière de son peuple par une folie, la folie de la foi, plutôt que par le fait, par une réponse rationnelle qui consisterait à éloigner les serpents, pour que 15 jours après, ben, on a oublié qu'il y a eu des serpents, et puis surtout, on a oublié pourquoi les serpents sont venus. Alors, on ne peut pas attendre de Dieu qu'il fasse comme si notre culpabilité n'existait pas. Mais Dieu nous fait le même cadeau qu'à Israël dans le désert. Comme Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour que quiconque regarde ait la vie. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il y a cette phrase saisissante qui est parfois difficile à interpréter. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous. Alors, en grec, il l'a fait péché pour nous. Donc, là, dans la traduction, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenons justice de Dieu. Celui qui nous sauve, par le regard que nous portons sur lui, c'est aussi celui qui nous renvoie l'image de notre péché. Il a été, encore une fois en grec, fait péché. Quand nous regardons la croix, nous voyons le don que Dieu fait pour notre salut. Mais nous voyons aussi l'image de ce que nous sommes, l'image de ce que nous méritons. De la même manière, parce que Dieu dit à Moïse, fais un serpent en bronze. On pourrait presque considérer que c'est vicieux. Je sais pas, fais un cochon rose, fais quelque chose. Mais surtout pas l'animal par lequel la mort est arrivée. S'il y a un animal qui doit te représenter, bah, qu'au moins ce soit pas la même bestiole que celui qui pour nous symbolise la mort. Si, justement. Justement. Dieu nous renvoie à cette image-là de nous-mêmes. Voilà ce qu'est l'humanité. Et en concentrant toutes les fautes de tous les hommes sur son fils, qu'il fait, encore une fois, c'est presque une faute grammaticale en grec de dire on ne peut pas être fait péché, c'est un concept, mais c'est pourtant comme ça que c'est écrit, le fait de concentrer sur son fils la totalité du péché des hommes, de tous les temps, de tous les lieux, c'est une façon de dire, voilà, l'instrument par lequel je vous sauve, c'est aussi l'instrument par lequel, et en regardant ça, vous êtes obligé de regarder votre culpabilité. En regardant la croix, je suis obligé de me savoir coupable et de savoir que si Dieu n'est pas là pour me sauver, je meurs. Alors c'est autre chose que le veau, où là, je me dis, bah, on va faire sans. Ça sera plus respirable. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à deux choses. Je vais me limiter à deux choses très brièvement. Une des différences que vous n'avez pas manqué de noter entre les deux animaux, c'est que ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Le serpent, on dit, Moïse fait un serpent en bronze, ou en airain. Point. Sans rien demander à personne, dans son coin, il fait un serpent d'airain. Pour le veau d'or, c'est amener les bijoux, donc tout le monde. Et donc, du coup, ça fait une sacrée différence. Parce que ce Dieu que Aaron va aussi appeler le Seigneur, au bon sens du terme, c'est-à-dire le vrai Dieu. Ben, qu'est-ce que c'est que ce vrai Dieu? C'est l'amalgame de tout ce qui l'amalgame collectif de tout ce qui individuellement nous rend plus beau. Alors, je veux pas faire de la psychologie à deux balles, mais les bijoux, c'est quoi? Et les bijoux à cette époque-là, c'est pas spécifiquement féminin, parce que vous avez vu, amener les bijoux de vos filles et de vos fils. Donc tout le monde porte des bijoux, homme ou femme, donc là, mon propos n'est absolument pas sexiste. Mais c'est quoi les bijoux? Ben, c'est ce qui nous rend plus beau qu'on est. C'est ce qui nous améliore un peu dans l'image que nous envoyons aux autres. C'est pas, y a pas de honte à ça, mais c'est la réalité. Et donc, faire un dieu avec ça, ça veut dire que, d'une part, ben, on va tous en être un peu propriétaire de ce dieu-là, hein. Parce que moi, j'ai filé la montre du grand-père. Pour, voilà. Donc, dans cette divinité-là, il y a une part de ce qui m'appartient. Et puis, c'est l'humanité sublimée, parce que j'ai mis là-dedans tout ce qui me rendait plus beau. Et donc, ce Dieu factice, eh ben, c'est encore une fois la projection, alors collective pour le coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans le collectif, il y a 15 jours on était dans l'individuel. Mais faire un Dieu avec une part de moi et une part de chacun de nous sublimée, ça c'est une tentation permanente. Moi j'ai une formule que vous avez déjà entendue qui consiste à dire « Dieu c'est moi en mieux ». Ben, c'est exactement ça. En l'occurrence, Dieu c'est nous en mieux. Voilà ce que les Hébreux peuvent se dire. Alors, Quand Paul dit aux Corinthiens « Je ne veux rien savoir d'autre chez vous que Jésus » et il ajoute « et Jésus crucifié ». Ça veut dire ça. Ça veut dire que dans le serpent de bronze, il n'y a rien qui ne vienne pas de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse et c'est Moïse, au nom de Dieu, qui fabrique le serpent. Et là, il n'y a aucune projection possible. D'abord parce que c'est la bestiole par excellence dont les Hébreux n'auraient pas eu l'idée. Parce que dans un cas, c'est Dieu qui dit tu vas faire un serpent, et dans l'autre c'est tiens on va se faire un animal, qu'est-ce qu'on choisit comme animal? Alors le veau, le terme de veau, c'est un peu ironique, parce qu'en réalité c'est sans doute un taureau qu'ils ont voulu faire, mais en fait ils ont fait un veau, et ils ont fait un veau avec leur la projection d'eux-mêmes collective, leur inconscient collectif matérialisé. Et quand Paul dit aux Corinthiens rien d'autre que Jésus sur la croix, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on peut rajouter des tas de choses pour faire une religion. On peut rajouter des tas de choses très humaines et très... Enfin, ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire comme les bijoux, c'est-à-dire ce qui fait que les hommes sont plus beaux. On peut construire une religion avec ça. C'est pas ça qui nous sauve. Ça peut nous aider à vivre en collectivité, au milieu du monde qui nous entoure, dans notre environnement, être en harmonie, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on va mourir et qu'il faut que Dieu nous sauve. Et donc là, il peut pas y avoir d'artifice. Nos bijoux, ça ne peut pas nous sauver. Nos bijoux, au sens où je l'entends, c'est-à-dire notre moi, même sublimé, ça remplace pas la mort par la vie. Et la mort par la vie, c'est Jésus, et Jésus sur la croix seulement. On a parfois tendance, et dans notre pratique, entre guillemets, religieuse, là pour le coup le mot n'est pas inadapté, dans notre pratique religieuse, on a tendance à trouver que, bien sûr, Jésus est Jésus sur la croix, donc Jésus crucifié, ça suffit. Ouais, mais c'est mieux s'il y a des légumes pour une religion qui tient la route. Et donc, on agrémente le plat. D'accord, mais on fait du veau là, on ne fait pas du serpent. Donc, interrogeons-nous là-dessus aussi, individuellement et collectivement. Et puis le dernier point que je voudrais aborder, ça, à midi j'aurai fini, c'est magnifique, c'est une triste nouvelle. Vous savez peut-être, si vous avez lu une bonne partie des textes bibliques, que le serpent, lui aussi, est devenu un veau. Vous avez entendu ça? Alors, 500 ans plus tard, Livre des Rois, Deuxième livre des Rois, chapitre 18, et écoutez bien comment on est tellement nul qu'on est capable de transformer un serpent en veau. Deux rois, 18, verset 1. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Avi, fils de Zécharia. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, exactement comme David son père. C'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau sacré et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les fils d'Israël avaient brûlé de l'encens devant lui jusqu'à cette époque. Pendant 500 ans, ils ont brûlé de l'encens devant ce machin. C'est pas gonflé, ça? Et donc, Ézéchias va faire une bonne chose. Il fit ce qui est bien. Il va réduire ce serpent en poussière. Comme quoi, même quelque chose qui... par dire tout ce qu'on a dit sur le serpent. Ça peut, au fil du temps, être transformé par les hommes aussi en une idole. C'est-à-dire que ce que l'impatience a fait pour le veau d'or, la patience peut le faire pour transformer un vrai Dieu en idole. Je pourrais résumer ça d'une formule, mais je voudrais pas être mal compris sur cette formule. La formule, ce serait « la croix, oui, le crucifix, non ». Je ne suis pas en train de dire « les protestants ont raison, les catholiques ont tort ». C'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de dire que si on n'a pas, dans notre relation à Dieu, la conscience du don de la vie qui nous est fait. Dieu nous sauve de la mort et nous fait cadeau de la vie. Même ça, et même ce qui symbolise ça, la seule chose que Paul veut connaître chez les Corinthiens, c'est-à-dire Jésus et Jésus crucifié et rien d'autre, même ça, ça peut tomber au rang d'une religion. Même ça, ça peut devenir une superstition. Même ça, ça peut devenir de l'idolâtrie. Et je te mets de l'encens devant le serpent. Alors, il est question là de vigilance. Le mélange qui est déjà dans notre texte, parce que je vous ai dit, fais-nous un dieu ou fais-nous des dieux, et puis à Aaron, une fois qu'il est fait, le veau dit, demain, faites pour Yahweh, c'est-à-dire pour le vrai Dieu, qu'on appelle par son nom, alors qu'on fait la fête devant le veau. Donc, faut pas avoir une perception manichéenne des choses, au sens, il y a le vrai Dieu d'un côté, les faux dieux de l'autre, les idoles, mes petits-enfants, comme disait Jean, oui, méfiez-vous des idoles. C'est comme ça qu'il termine, vous savez, son propos, sa lettre. Mes petits-enfants, méfiez-vous des idoles. Mais méfiez-vous des idoles, c'est pas seulement rester tourné vers le vrai Dieu et puis laisser tomber ce qui est de la contrefaçon. Non, c'est méfiez-vous aussi de ne pas faire du vrai Dieu une idole poussiéreuse qu'on va retrouver dans 500 ans au fond d'un placard. Alors, il faut que Dieu nous laisse sur la brèche. Il faut que notre Dieu, notre Seigneur, nous donne conscience que on peut avoir en apparence les mêmes attitudes, individuellement, je l'ai dit il y a 15 jours, et collectivement, je l'ai dit aujourd'hui, les mêmes comportements, les mêmes habitudes collectives. Dans un cas, on sera vraiment tourné vers celui qui nous sauve. Et on aura présent à l'esprit que notre foi, ça n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de vie. Et que cette image de Jésus sur la croix, c'est une image vivifiante pour notre quotidien. Et puis dans l'autre cas, on sera des gens religieux, donc ça nous permettra de faire notre petite sauce dans notre petit coin, sans rien demander à personne, individuellement et collectivement. On n'est-il pas plus tranquille comme ça ? Oui, sauf que c'est pas le projet de Dieu. Parce que si on est dans cette optique-là, religieux ou pas, j'allais dire évangélique ou pas, ce qui nous attend, c'est la mort.